Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 8 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Lancement historique de la zone de libre-échange continentale africaine hier à Niamey, au sommet de l'Union africaine.
Fin de la tournée du Premier ministre Boubou Cissé dans le centre du Mali, où il a préconisé des solutions contre la violence intercommunautaire.
La ministre française des Armées est arrivée ce lundi à Bangui pour une visite officielle en République centrafricaine.
La CPI rend aujourd'hui son jugement sur l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, détenu à La Haye depuis 2013.
Téhéran a annoncé hier avoir commencé à enrichir l'uranium à un niveau prohibé par l'accord sur le nucléaire iranien.
Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN. Pour l'instant, le journal.
Les pays membres de l'Union africaine ont lancé symboliquement hier à Niamey la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir le plus grand espace commercial au monde. Des détails avec Eric Manirakiza.
Plusieurs chefs d'État se sont succédés sur l'estrade du sommet de l'Union africaine pour lancer les 5 instruments opérationnels, système de paiement numérique, portail de suivi et règles d'origine, avant que le président nigérien Mahamadou Issoufou ne dévoile une plaque lançant la ZLEC, affirmant que c'est l'événement le plus important dans la vie de l'Afrique depuis la création de l'OIO en 1963 et sa transformation en Union africaine. Le géant nigérien, réticent jusque-là, et son voisin le Bénin ont signé l'accord dimanche en ouverture du sommet sous les applaudissements de leurs homologues. Un vieux rêve se réalise, les pères fondateurs doivent en être fiers, a lancé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. 54 de 55 pays africains vont constituer son nouveau marché dont le siège sera à Accra. Seule l'Érythrée n'a pas signé l'accord, mais a annoncé qu'il était disposé à le faire. Une équipe d'experts de l'Union africaine va se rendre prochainement dans ce pays. Le chemin est encore long, a commenté le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les discussions achoppent notamment sur le calendrier des réductions des droits de douane et la vitesse à laquelle on les fait baisser, mais aussi sur la circulation de biens importés de l'étranger, a confié une source diplomatique.
Et nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé préconise plus de maquillage sécuritaire et un dialogue entre protagonistes locaux pour contenir les violences intercommunautaires dans le centre du pays. À Douanza, ultime étape de sa tournée entamée le 3 juillet, M. Cissé a annoncé de nouvelles garnisons dans la région. Yacouba Ouédraogo.
M. Cissé avait lancé jeudi une opération de distribution gratuite de 8000 tonnes de céréales aux populations en insécurité alimentaire de la région, après avoir souligné, je cite, le lien entre les violences sur le terrain et l'insécurité alimentaire. Le nombre de personnes déplacées internes fuyant ces violences a quasiment quadruplé dans les régions de Mopti et de Ségou entre mai 2018 et mai 2019, passant de 18 000 à 70 000. Nos forces vont se déployer sur le terrain. Au total, ce sont 3500 hommes qui vont monter. Sur les 7 derniers jours, il y a déjà 1500 militaires arrivés dans la région, avait déclaré le chef du gouvernement malien le 4 juillet. À Bandiagara, un fief des Dogons, Boubou Cissé a réaffirmé samedi sa ferme détermination à apaiser les tensions communautaires. Le Premier ministre a facilité une rencontre des vrais acteurs de la crise. Il y a désormais de l'espoir, a déclaré dimanche Bokari Sangara, député de Bandiagara. Des chefs des communautés peu le Dogon se sont rencontrés pour continuer sur le chemin de la paix et ont prévu de se rendre prochainement ensemble sur le terrain pour faire baisser la tension selon des participants à ces rencontres.
Arrivée aujourd'hui à Bangui de la ministre française des Armées, Florence Parly, pour une visite officielle en République centrafricaine, un pays en proie à des violences persistantes, malgré un accord de paix signé en février. Selon le ministère français des Armées, Madame Parly doit s'entretenir avec le président Faustin-Archange Touadéra et son homologue Marie-Noëlle Koyara, pour évoquer la situation sécuritaire et les efforts de la communauté internationale pour y faire face sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine.
La Cour pénale internationale rend ce lundi son jugement sur l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, détenu à La Haye depuis 2013 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda est accusé d'avoir recruté des enfants soldats et d'avoir commandité des meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
Le Croissant-Rouge tunisien a indiqué hier que 3 corps, ceux d'un enfant de 3 ans et de 2 femmes, dont l'une était enceinte, ont été repêchés samedi au large de la Tunisie, portant à 16 le nombre de cadavres retrouvés après le naufrage d'une embarcation transportant des dizaines de migrants. Jeudi, l'Organisation internationale des migrations avait annoncé le naufrage d'une embarcation avec à son bord plus de 80 migrants, d'après le récit d'un des 3 survivants. Ils étaient partis lundi dernier de la ville libyenne de Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli, à bord d'un bateau pneumatique en direction de l'Italie.
Malte a annoncé hier que ses forces armées allaient acheminer dans un port maltais les 65 migrants se trouvant à bord d'un navire d'une ONG allemande. Les étrangers seront tous immédiatement répartis entre différents pays européens, Jean-Roger Bion.
Le premier ministre maltais Joseph Muscat, qui a eu des discussions dimanche avec la Commission européenne et le gouvernement allemand, a précisé qu'aucun de ces migrants ne resterait dans son pays. Au moins la moitié d'entre eux seront accueillis par d'autres pays, a précisé Joseph Muscat, parlant d'un signe de reconnaissance de la bonne volonté du gouvernement maltais. Malte avait interdit dimanche matin l'entrée du navire dans ses eaux territoriales. Les forces armées maltaises ont par ailleurs porté secours dimanche à un groupe de 58 autres migrants qui se trouvaient sur une embarcation en train de couler dans leur zone de secours en mer. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères d'Italie et de Malte, Enzo Moavero et Carmelo Abella, appellent à créer un mécanisme permanent au niveau de l'Union européenne qui affronterait l'ensemble des questions sensibles concernant les migrations, un point inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne en juillet. Pour eux, il n'est plus admissible de continuer à procéder au cas par cas en cherchant des solutions dans l'urgence.
Également, en seconde partie de cette édition, notre correspondant à Yaoundé nous parlera d'un programme d'aide aux anciens candidats à l'immigration clandestine après leur retour volontaire au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Iran a confirmé hier avoir commencé à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire. Pour le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, cette mesure va conduire l'Iran à plus d'isolement et de sanctions. Les 3 pays européens encore partis à l'accord ont de leur côté condamné cette décision qui fragilise encore davantage ce pacte. De nouveau, Eric Manirakiza.
Dans des communiqués séparés, Londres et Berlin ont appelé Téhéran à revenir sur sa décision et Paris a fait part de sa grande inquiétude, demandant à l'Iran de cesser toute activité non conforme à l'accord sur le nucléaire. Malgré les critiques, Téhéran affirme que sa décision ne vise qu'à sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. La République islamique a menacé dimanche de s'affranchir d'autres obligations en matière nucléaire, sans préciser lesquelles, dans 60 jours, à moins qu'une solution soit trouvée avec ses partenaires pour répondre à ces demandes qui ont trait essentiellement à la possibilité pour l'Iran de continuer de vendre son pétrole et de commercer avec l'extérieur en contournant des sanctions américaines. L'accord de Vienne a été conclu entre l'Iran et le groupe des 6, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne, après 12 ans de crise autour du programme nucléaire iranien. Washington a justifié la sortie de ce pacte en accusant l'Iran de n'avoir jamais renoncé à se doter de l'arme atomique et d'être la cause de tous les maux au Moyen-Orient. Téhéran, au contraire, a toujours démenti vouloir la bombe.
Fin de ce journal sur VOA Afrique et maintenant les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations avec Yacouba Ouédraogo.
« Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Ce soir, on connaîtra toutes les oppositions des quarts de finale de cette CAN 2019 à l'issue de deux gros duels à 16h temps universel. Le Mali et la Côte d'Ivoire croiseront les crampons dans un choc ouest-africain. Double vainqueur de la CAN en 92 et 2015, les éléphants ivoiriens ont hérité de la tâche la plus ardue face aux aigles du Mali. Sélection très jeune et séduisante qui a fini première de son groupe. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire le sait, le passé glorieux ivoirien ne fait pas peur. Ibrahim Camara.
Que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire ou n'importe quelle équipe qui se trouve à ce stade de la compétition, il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets parce qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de deuxième match, il n'y a pas de troisième match. Il ne faut pas regarder les historiques ou alors les bookmakers. Sinon, on se dirait la Côte d'Ivoire pas favori, mais non, ce n'est pas le cas. On l'a vu sur les derniers résultats. Donc nous, on va se préparer. Ce n'est pas la même génération que celle qui gagnait tout le temps sur les deux dernières confrontations qui sont en 2015 ou tout récemment au Mali. C'était 0-0, donc les écarts se rapprochent.
En face, le coach malien en appelle au patriotisme de ses joueurs.
Pour moi, ce qui compte, c'est le présent. Demain, c'est une autre histoire qu'il faut savoir écrire avec beaucoup d'humilité, certainement, mais surtout beaucoup d'abnégation, avec le sens du devoir et du patriotisme pour pouvoir donner enfin satisfaction à ce peuple qui attend, attendu. Nous sommes convaincus que nous avons des valeurs. Nous sommes aussi convaincus que c'est un match de football. En tablant sur nos valeurs et nos forces, nous sommes convaincus que nous allons continuer notre aventure, quel que soit l'adversaire qui se presse devant nous.
Mohamed Magasouba, sélectionneur du Mali. À 19h, les Ghanéens finalistes en 2015 et quadruple vainqueur de l'épreuve partent favoris en soirée face aux Tunisiens. Les Black Stars, portés par les frères Ayou et Thomas Partey, ont fini premier de leur groupe devant les Camerounais. Les Tunisiens sont prévenus, eux qui doivent être beaucoup plus créatifs dans le secteur offensif, selon leur coach Alain Giresse.
C'est un match important, c'est un huitième de finale. Tout l'espoir, évidemment, est là pour se qualifier. Effectivement, ça serait décevant de s'arrêter à ce stade de la compétition, effectivement. Nous avons toujours ce problème de la création du secteur offensif où nous devons être meilleurs dans ses capacités à produire du jeu et surtout se produire des possibilités de marquer et d'avoir ces occasions. Donc ça, c'est notre problème à l'heure actuelle.
L'aventure continue pour Madagascar. On n'arrête plus les barrières. Les Malgaches novices à la CAN sont en quart après avoir éliminé la République démocratique du Congo au tir au but avec 4 tirs réussis contre 2. Le score était de 2-2 après les prolongations sous les yeux du président malgache Ange Rajoel qui avait affrété un avion spécial pour les supporters. L'équipe sensation de cette CAN a poursuivi son épopée au bout du suspense. Dans le second huitième de finale d'hier, l'Algérie a assumé son nouveau statut de favori en maîtrisant la Guinée 3-0 pour se qualifier pour les quarts de finale. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur ses coups de tonnerre du week-end. C'est le coup de sifflet.
Bonjour. On savait les matchs à élimination directe passionnants et impitoyables. On savait également que ces matchs couperaient se gagnent sur des détails. Tout ceci s'est vérifié dès le huitième de finale de cette CAN sur laquelle vient de souffler un véritable vent de tsunami. Si le Sénégal et l'Algérie ont logiquement rappelé à l'ordre des formations d'Ouganda ou de Guinée moins armées individuellement et collectivement, la sensation est venue de la qualification surprise du Bénin et de Madagascar devant des adversaires suspects. Pour le courageux malgache, le salut est venu de la production héroïque de leur gardien de but, le détail qui permet aux petits poussés béninois de renverser la montagne marocaine et ce pénalty de la victoire manqué à la 90e minute par le meneur de jeu chéritien. Après-midi-hier, fantomatique tout au long de la rencontre. Le sort sera encore plus cruel pour les vaincus de la journée de samedi. Les grands favoris camerounais et égyptiens, plutôt victimes du coaching. Coaching perdant de Sidor, qui craignant un second carton fatidique, sort son libéro du milieu de terrain Mandjek à la 32e minute, alors que les Lions indomptables menaient au score contre le Nigeria. Résultat, une désorganisation du système de récupération et deux buts irrattrapables des Super Eagles en 3 minutes, synonyme d'élimination pour les champions en titre. Coaching gagnant du sélectionneur de Bafana Bafana d'Afrique du Sud, qui a non seulement réussi à faire déjouer le super favori égyptien, mais a aussi eu le génie de faire rentrer à la 85e minute le buteur providentiel éliminant les pharaons et plongeant le pays dans un drame et sûrement la CAF dans l'embarras. La journée de lundi nous offre deux matchs a priori équilibrés, Ghana, Tunisie et Mali-Côte d'Ivoire. Et quel que soit leur résultat, la saignée des huitièmes de finale met en évidence un nouveau favori numéro 1, l'Algérie de Marais. Mais est-ce pour longtemps? La suite nous le dira. À bientôt.
Dans le reste de l'actualité, les Américaines ont remporté un quatrième mondial féminin en battant les Pays-Bas en finale 2-0 à Lyon en France. La team USA suivant le football féminin avec 4 Coupes du Monde, 91, 99, 2015 et 2019 et 4 titres olympiques, 96, 2004, 2008 et 2012. De son côté, le Brésil a remporté la Copa América pour la 9e fois de son histoire, la première depuis 2012 en battant le Pérou 3-1 en finale au Maracana à Rio. C'est tout pour le Journal des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le sommet extraordinaire de l'Union africaine ce week-end à Niamey au Niger. Il a été essentiellement consacré au lancement de la zone de libre-échange continental. De Niamey, notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
C'est le Ghana qui va abriter le siège de la zone de libre-échange continental africaine ZLECAF. L'arbitrage a été rude entre les chefs d'État réunis ce dimanche à Niamey pour retenir le pays de Kwame Nkrumah face à l'Égypte ou encore le Kenya. Autre décision de ce sommet, c'est la date retenue pour le début des échanges dans le cadre de cette zone de libre-échange continental. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, hôte du sommet.
Cette date, c'est le 1er juillet 2020. Donc nous prendrons toutes les dispositions pour qu'au 1er juillet 2020, les échanges entre nos pays se fassent dans le cadre de la zone de libre-échange continental. La quatrième décision importante qu'il faut noter, c'est que nous avons adopté une journée de l'intégration africaine. Cette journée, ça sera le 7 juillet, pour commémorer chaque année l'importante journée que nous avons vécue.
Beaucoup de défis restent cependant à relever pour une effectivité de cette zone de libre-échange continentale voulue par les pères fondateurs de l'OIA, sécurité, infrastructure ou encore la question des barrières douanières. Tous ces défis sont surmontables, estime le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat.
Au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en ordre de bataille pour progressivement lever tous ces obstacles et ouvrir l'Afrique aux Africains. Je sais que cette jeunesse est capable. Les gens qui quittent ici le Niger, qui quittent le Mali pour aller jusqu'au Sahel à pied, et cela depuis plusieurs siècles, sont capables de faire des miracles. Il faut qu'on leur en donne les moyens.
Le lancement de cette zone de libre-échange continentale africaine à Niamey aura aussi été marqué par la signature de l'accord par deux des trois pays encore réfractaires sur les 55 États africains. Le Nigeria, première puissance économique du continent, et le Bénin. Noël Kossi Kumba, ambassadeur de la République du Bénin au Niger.
Ah, c'est une grande joie. C'est une grande joie. On n'avait jamais dit qu'on ne ferait pas ça. On disait qu'on va le faire en temps opportun. C'est ce temps porteur là que nous avons à le faire. On a vu tout le contrôle, on a trouvé que c'est très bon, qu'il fallait le signer.
Le Bénin a signé, il reste la ratification, vous la prouvez pour quand?
On déterminera, ça sera très bientôt.
Le but de la zone de libre-échange continentale africaine est d'éliminer d'ici 10 ans les droits de douane sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires à travers la création d'un marché commun dont le potentiel de consommateur va au-delà du milliard d'habitants. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Retour également sur la tournée de 5 jours que le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, a terminée hier dans la région de Mopti, une région qui fait face à une insécurité grandissante. Compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est par la ville de Mopti que le Premier ministre Dr. Boubou Cissé a commencé sa tournée de 5 jours dans la région de Mopti. Il donne les raisons de cette mission.
Nous sommes dans une région qui est beaucoup affectée par la crise, une crise multidimensionnelle qui est sécuritaire et qui a d'énormes impacts, évidemment négatifs, sur son devenir. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de paix, pour parler de cohésion sociale et faire en sorte de mettre en place les voies et moyens pour faire revenir la paix et la stabilité dans cette région éminemment importante de notre pays.
De Mopti à Douanza, en passant par Koro, Bankas, Banyangara et Ombori, la parole a été donnée aux populations.
Notre cri de terre aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, son Excellence, c'est ces mesures de restrictions sécuritaires qui sont en train d'empiéter sur notre économie. En plus de ces restrictions sécuritaires, voyez l'économie de la région de Mopti est carrément au bas de l'échelle.
Avant la crise, nous n'avions jamais connu de difficultés liées au manque des ressources. De nos jours, avec l'arrêt des activités de guidage, nous ne parvenons plus à faire face aux charges réelles de nos familles.
En ce qui concerne les groupes d'autodéfense, arrêtez carrément les groupes d'autodéfense.
À cause de l'insécurité, plusieurs écoles sont restées fermées dans la région de Mopti. Amadi Bokoum, enseignant.
Nous comptabilisons actuellement plus de 600 écoles fermées. Et à cause de l'insécurité, nous avons pris des dispositions pour délocaliser certains centres. Mais à mon point de vue, ce n'est pas suffisant. Donc, je demande un renforcement de la sécurité pendant la période des examens, afin que le candidat puisse composer tranquillement et sans souci. Les enseignants également puissent être dans de bonnes conditions pour l'organisation des examens de fin d'année.
Les populations ont surtout parlé du vivre ensemble. Seydou Makital, notable.
J'ai invité mes parents à œuvrer pour la paix, parce que sans la paix, rien n'est possible. Que les gens acceptent de vider les cœurs pour que le vivre ensemble que nous avons connu, que nos parents ont connu, nos grands-parents avant nous ont connu, pour que ce vivre ensemble puisse revenir et le plus rapidement possible. C'est très important que les gens puissent aller sur les marchés, dans les pâturages, dans les champs, sans aucune inquiétude.
La présence des militaires dans les localités, les retours de l'administration, ainsi que la question des déplacés ont été abordés. Amadou Souley Maïga de Banyangara.
Il faut que nous donnons la main pour pouvoir relever ce défi. Et ce n'est pas un chapel ou dogon. Tout le monde est interpellé, à quelque niveau qu'on soit du moins. Faisons en sorte que nos frères qui ont abandonné cette zone-là puissent revenir. Au moins, pour qu'ils puissent recouvrer leur dignité. Un chef de famille qui va vivre à Sévaré en location ou je ne sais pas comment, ou bien aller dormir sur le toit du voisin, ce n'est pas bon. Accentuons-nous, travaillons-nous pour le retour de nos frères.
Le Premier ministre a dit que les camps militaires et des gendarmeries seront multipliés. 1500 soldats sont déjà arrivés dans la région de Mopti. Ce chiffre peut augmenter de 3000 à 4000 hommes. Malgré tout, Boubou Cissé compte sur la population.
Je vois sa créativité, son dynamisme, combien elle reste vivante. Je ne peux qu'avoir beaucoup d'espoir parce que je pense que la solution est dans leurs mains. Ils nous aideront à travers un sursaut national à faire en sorte que cette paix, cette cohésion nationale revienne sur notre territoire.
Pendant cette tournée du Premier ministre, il était accompagné par des notabilités et des personnalités influentes des communautés Dogon et Pil. Mopti, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, et ce depuis 2 ans, initiative conjointe de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations, afin de protéger et de réintégrer les anciens candidats à l'immigration clandestine. Plus de 3000 d'entre eux sont revenus volontairement au pays. De Yaoundé, Emmanuel Jultap.
En 2017, 250 Camerounais qui voulaient tenter l'aventure et ont été pris au piège en Libye ont été les premiers bénéficiaires de ce programme de protection et de réintégration des migrants. Une aide de 1200 euros, près de 600 000 francs CFA, a été accordée à chacun d'eux après approbation de leur plan business par une des antennes de l'Organisation internationale des migrations au Cameroun. François Nioïta Sibingunda est chargé du volet intégration à l'OIM à Yaoundé.
L'OIM vérifie que le migrant des tour a des intentions de rentabiliser l'assistance reçue. Le migrant va être encouragé de développer des projets qui pourraient employer d'autres migrants, y compris dans sa communauté d'origine.
Il faut attendre un mois à compter de la date de retour pour solliciter le financement. À ce jour, seuls 60% des postulants ayant reçu l'argent pour commencer les affaires sont encore opérationnels. Les candidats à l'immigration augmentant chaque fois, le nombre de retours volontaires s'est accru en 2 ans. Elena Fanetti, chargée du programme sécurité et la migration à la délégation de l'Union européenne à Yaoundé.
En 2 ans, le cible initial était de 850 migrants camerounais. Nous avons à la date d'aujourd'hui plus de 3000 Camerounais qui sont rentrés depuis juin 2017, principalement des Niger, Libye, mais aussi d'Algérie et d'autres pays. Nous avons plus que doublé le budget. C'est pour une période maintenant de 3 ans jusqu'en juin 2020. On sera capable de couvrir la réintégration pour 3350.
Ivan Takam est rentré volontairement il y a 6 mois au Cameroun. Grâce grâce à cette initiative conjointe OIM Union Européenne. À 27 ans, il aura tenté pendant 4 ans de se rendre illégalement en Europe et au risque de sa vie, il avait atterri au Maroc. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur, il dirige aujourd'hui son business en bâtiments et travaux publics.
Moi, particulièrement, je suis avec 150 000 francs du Cameroun. Je remercie d'avoir encore beaucoup l'OIM pour leur accueil. Parce que sans ça, c'est que j'aurais moi-même encore repris la route, malgré tous ces risques.
Mais certains anciens migrants estiment que ce programme serait plus bénéfique s'il était appliqué autrement. Cyril Némandé a été en Algérie. Il est le président de OPI, Human Migrant Association, qui encadre 300 ex-migrants.
On a proposé à l'Union Européenne ceci. Faites-le. Progrès groupé de 20-30 personnes qui vont faire un chiffre important. Si 20 personnes s'associent, qui ont 500 000, ça fait créer une entreprise. Mais on veut toujours que les produits viennent de l'extérieur et les fournisseurs sont là, véreux. Parfois, ils s'entendent avec les migrants. Je te donne ta marchandise, c'est 500 000, je te donne 300 000 en espèces. Et ça, c'est pas une réinsertion.
D'après de récentes statistiques, plus de 2500 Camerounais sont actuellement bloqués en Libye. Et on ne sait toujours pas si des Camerounais sont morts durant le récent bombardement du centre de détention des migrants de Tajoura, près de Tripoli, la capitale libyenne. Yaoundé, Emmanuel Jimta, VOA Afrique.
Faire de la consommation locale un appui confortable à l'économie nationale, c'est l'ambition du Togo, selon notre correspondante à Lomé. Reportage de Kay Lawson.
Consommer produits togolais était le slogan d'une campagne de promotion des produits made in Togo dans les années 80. Depuis, de l'eau a coulé sous le pont et les Togolais se sont éloignés des produits locaux. Au début des années 2010, les Togolais renouent timidement avec la consommation locale. C'est l'analyse faite par Abra Tenou Lawani, promotrice du marché du paysan.
On peut dire qu'il y a une tendance pour consommer local, mais ça ne prend pas comme on souhaite, tout simplement parce que les consommateurs ne savent pas où trouver ces produits. Et puis quand ils les trouvent, généralement, on tombe vite en rupture de stock en tant que producteur parce qu'on n'a pas cette capacité de production pour pouvoir déverser « waouh » comme le feraient des industriels sur le marché.
Aujourd'hui, des points de vente des produits purement togolais se multiplient à la grande satisfaction des consommateurs.
J'ai tendance à vouloir consommer de plus en plus local pour soutenir les producteurs locaux. Quand on consomme local, on a une meilleure possibilité de suivre la chaîne de production de A à Z. Et là, on a une meilleure santé au final.
Il y a une diversité de produits naturels qui sont bons pour la santé. Les produits fabriqués à grande échelle contiennent des additifs qui sont nuisibles pour la santé.
On peut avoir des produits de qualité de chez nous. Donc, il est très important, rien que pour notre santé, de consommer local d'abord et pour le développement de l'économie de notre pays.
Effectivement, consommer des produits locaux veut dire contribuer au développement de l'économie nationale, renchérit Boris Agbagla, responsable TPE dans une banque de la place.
Il est important de consommer du local afin de développer en fait le tissu industriel togolais. Si nous ne consommons pas local, l'activité ne marche pas et pour la banque, les clients ne viendront pas. Il n'y aura pas de dépôt, il n'y aura pas d'entreprise qui vont être pérennes. Consommer du local soutient l'économie du pays. C'est même l'importance même de la chose.
Pour véritablement convaincre les Togolais à consommer des produits transformés localement, il faut que ces derniers répondent aux normes. C'est dans cette optique que la Haute Autorité pour la Qualité et l'Environnement HOC a été créée. Mais Ebine Sokouloum du ministère du Commerce.
La Haute Autorité pour la Qualité et l'Environnement est chargée d'accompagner les acteurs locaux dans l'élaboration, la création de leurs produits. Pour être compétitif, il faut respecter les normes. Donc la HOC vise à accompagner nos producteurs et acteurs locaux afin d'avoir des produits compétitifs sur le marché national et international.
Pour faire de la consommation locale un des piliers du développement du Togo, des actions s'imposent, estime Abra Tenou Lawani, promotrice du marché du paysan.
Le travail doit se faire dans deux sens. D'une part, on doit sensibiliser la population à consommer local et puis d'autre part, compter sur le gouvernement pour avoir des mécanismes plus forts, plus dynamiques pour appuyer la transformation pour que les produits soient variés et disponibles à tout moment.
Avec une population estimée à 8 millions d'habitants, le Togo pourra compter sur les exportations pour soutenir son tissu industriel. Mais avant d'arriver à l'étape des exportations, il faut que la population soutienne les producteurs locaux qui proposent des produits compétitifs. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou. Politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.